Alors, depuis la semaine dernière, nous parlons du mystère des amputateurs sataniques. Alléluia. Et nous sommes toujours dans cette même démarche. Et ce soir, nous allons évoluer et nous allons parler sur ne plus être eunuque. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons prendre notre texte dans le livre de Matthieu, chapitre 19, le verset 12. Matthieu 19, le verset 12. Si nous y sommes, est-ce qu'on peut se lever pour honorer la lecture de la parole du Seigneur? Alléluia. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Que le Seigneur bénisse sa parole. Assois-toi, bien-aimé. Alors, nous parlons ce soir sur le thème « Ne plus être eunuque ». Ne plus être eunuque. La dernière fois, nous avons parlé des parties de la vie d'un homme qui pouvait être amputé, qui pouvait être ôté, qui pouvait être enlevé, qui pouvait être déchiré, qui pouvait être castré. Alléluia. Et parmi les moyens de l'amputation, nous avons parlé du caractère eunuque. Alléluia. Le mot hébreu pour eunuque est saris. Saris, et tandis que en grec, il est appelé eunuchos. Eunuchos. Alléluia. Et cela signifie quelqu'un qui a été castré. Quelqu'un qui a été amputé d'un ou de plusieurs membres ou parties de son corps ou aptitude. Je répète, cela signifie saris en hébreu, eunuchos en grec. Cela signifie quelqu'un qui a été castré, amputé d'un ou de plusieurs membres ou parties de son corps ou aptitude. Oui, mes bien-aimés, on peut être castré de certaines aptitudes dans nos vies. On peut être castré de certains dons dans nos vies. On peut être castré de certaines capacités dans nos vies. Alléluia. Et cela fait de nous un eunuque. Amen. Alors, qu'est-ce qu'un eunuque en réalité, mes bien-aimés? Un eunuque est quelqu'un à qui on a enlevé premièrement la capacité de se reproduire. Alléluia. Un eunuque, c'est quelqu'un qu'on a ôté la partie essentielle qui fait de lui quelqu'un d'exceptionnel. Ce soir, je crois qu'il y a un peuple exceptionnel. Alléluia. Je reprends, mes bien-aimés. Un eunuque, c'est quelqu'un à qui on a enlevé la capacité de se reproduire. C'est quelqu'un à qui on a ôté la capacité d'être exceptionnel. La capacité qu'on lui a enlevé, les capacités qui font de lui une personne particulière. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est quelqu'un qui ne peut plus produire des résultats. C'est quelqu'un qui a été rendu stérile. Alléluia. Qui a été rendu stérile. Alors, il est bien entendu que la stérilité ici ne se limite pas à l'impossibilité pour une femme ou bien pour une femme de tomber enceinte ou pour un homme de procréer. Alléluia. Il est important de comprendre également qu'il y a au-delà de ça la stérilité financière, la stérilité spirituelle, la stérilité conjugale, la stérilité émotionnelle, la stérilité sociale. Alléluia. La stérilité professionnelle. On peut vivre la stérilité dans tout et dans n'importe quel domaine de nos vies. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a béni et lui a ordonné d'être fécond. Vous voyez, le processus de la bénédiction n'est pas à la demande de l'homme, c'est à la demande de Dieu. Dieu n'a pas consulté l'homme pour le bénir. La Bible dit que lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a béni. Genèse chapitre 1, le verset 28, Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Je veux que tu te tournes vers quelqu'un et tu dises que Dieu t'a béni. Je veux que tu te tournes vers deux personnes devant, derrière. Dieu t'a béni. Dieu t'a béni. Il n'a pas consulté tes parents. Il n'a pas consulté tes ancêtres. Il n'a pas consulté ton père. Il n'a pas consulté ta mère. Il n'a pas consulté tes gouvernants. Il n'a pas consulté l'autorité de ton village. Il t'a béni. Alléluia. C'est très important. Voyez, beaucoup de personnes croient plus à ce que le diable dit qu'à ce que Dieu dit. Commencement. C'est quoi, quelle que soit la puissance d'une malédiction dans ta vie. Bien-aimé, c'est ce qui vient en premier qui domine. La malédiction est venue après. La bénédiction est en premier. Chaque fois, proclame-le dans ta vie, je suis béni. Je suis béni. Avant que je ne sois formé dans le sein de ma mère, je suis béni. Et la Bible dit, Dieu les bénit. Et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se lève. Pour vous, un seul être sur lequel Dieu a donné la domination. Qui peut deviner? L'homme. Dieu n'a pas de la domination à l'homme sur l'homme. Alléluia. Amen. Alors nous réalisons ici que c'est la bénédiction de l'Éternel qui rend un homme fécond. C'est la bénédiction de l'Éternel qui rend un homme agréable. C'est la bénédiction de Dieu qui rend un homme exceptionnel. Une fois que la bénédiction est ôtée, l'homme devient stérile. Grand Samson était très fort et fécond. Il était capable de terroriser les Philistins et de régner en tant que juge en Israël. C'était ce à quoi il était destiné. Mais lorsque Delilah lui a rasé les cheveux pour avoir désobéi à la loi de Dieu, sa communion avec Dieu a été rompue. Mais bien aimé, si l'ennemi peut ôter la bénédiction ou la grâce d'un homme, celle-ci luttera toute sa vie sans obtenir de résultat. Alléluia. Dans Luc chapitre 1 à partir du verset, Luc chapitre 5 à partir du verset 1 jusqu'au verset 10, on y parle l'histoire de Pierre qui allait pêcher avec son équipe composée de Jacques et de Jean. Alléluia. Et ils ont peiné toute la nuit sans obtenir de résultat. La Bible dit, dans un tel cas, on pourrait dire qu'ils étaient des eunuques parce qu'ils n'avaient aucun résultat. Est-ce que quelqu'un me suit? Chaque fois que tu n'as pas de résultat, tu es un eunuque. Tu es un eunuque. Et la Bible dit, toute la nuit, ils ont péché, ils n'ont eu aucun résultat. Et au petit lever du jour, le Seigneur venait à eux et le Seigneur leur a dit, jeter le filet dans les eaux plus profondes. Et la Bible dit qu'au même moment où ils ont jeté le filet, ils ont expérimenté la pêche miraculeuse, mes bien-aimés. La pêche miraculeuse, parce que ce que Dieu a béni, aucun homme ne peut maudire. Aucun homme ne peut maudire. Je décrète au nom de Jésus qu'à partir de maintenant, ta vie est pleine de résultats. 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 Lorsqu'ils ont rencontré le Seigneur, leur fécondité a été rétablie. Et ils ont eu une récolte de poissons telle que leur bateau a commencé à couler. Je décrète ce soir, alors que tu fais la rencontre avec le Dieu de la fécondité, ta fécondité est restaurée, ta fécondité financière est restaurée, ta fécondité matérielle est restaurée, ta fécondité dans les affaires est restaurée, ta fécondité maritale est restaurée, ta fécondité sociale est restaurée. Au nom de Jésus. Mes bien-aimés, vous devez comprendre qu'il n'y a rien d'aussi terrible que de faire tant d'efforts et de ne pas obtenir des résultats. Les gens ne reconnaissent pas les efforts. Ils ne célèbrent que les résultats. Je répète, les gens ne reconnaissent pas les efforts. Ils ne célèbrent que les résultats. Aujourd'hui, tout le monde acclame Francis Ngannou, mais personne n'était là quand il y avait les efforts. Tout le monde veut manger de son argent. Tout le monde veut profiter de lui. Alors quand il arrive quelque part, il ne donne pas à boire, on dit tu es chiche. Mais où étiez-vous quand il souffrait? Alors une vie stérile est une vie d'opprobre. Une vie stérile est une vie de honte. Une vie stérile est une vie d'humiliation. Une vie stérile est une vie de rejet. Une vie stérile est une vie d'opprobre. Je viens ce soir avec le manteau apostolique te déconnecter de cette vie. Te déconnecter de cette vie. Je programme ta fécondité maintenant. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Voyez, je prie pour toi. Le résultat dont tu as besoin pour faire taire les moqueurs de ta vie, pour faire taire les moqueries de ta vie, c'est manifeste maintenant au nom de Jésus. C'est manifeste maintenant au nom de Jésus. C'est manifeste maintenant au nom de Jésus. Les résultats dont tu as besoin pour que ceux qui te moquaient rentrent dans leur coma arrivent maintenant dans ta famille, arrivent maintenant dans tes affaires, arrivent maintenant dans tes entrailles, arrivent maintenant dans ton foyer. Arrive maintenant au milieu de tes frères, au nom de Jésus. Sois toi bien aimé. D'après l'écriture de Matthieu chapitre 19 verset 12, il est clair ici, il est dit ici que les ennemis sont classés en trois catégories. Trois catégories. Première catégorie, ceux qui sont nés eunuques. Ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, ceux qui ont été faits eunuques par des hommes. Et troisième catégorie, ceux qui se sont faits eunuques eux-mêmes. Où est-ce que tu te trouves? Où est-ce que tu te trouves? Essayons d'examiner chaque catégorie. Commençons par la première catégorie. Le premier groupe d'eunuques. La Bible dit que le premier groupe d'eunuques, ce sont ceux-là qui le sont dès le ventre de leur mère. Dès le ventre de leur mère. Le premier groupe d'eunuques ici est impuissant dès la naissance. Est incapable dès la naissance. Est stérile dès la naissance. C'est-à-dire depuis sa fondation. C'est-à-dire depuis ses origines. Ce dont ils ont besoin pour accomplir leur destinée ou leur but dans ce monde. Leur a été volé avant la naissance. Oh, je ne sais pas à qui je m'adresse ce soir. Bien-aimé, cela signifie simplement qu'ils sont venus au monde en tant que moins que rien. Ils sont venus au monde vidés de leur substance exceptionnelle, vidés de ce qui fait d'eux des personnes particulières, vidés de ce qui fait d'eux des étoiles. Alléluia! Je viens prier pour toi ce soir. Si c'est ton cas, je déclare la restitution, je déclare la restauration, je déclare la restauration. Je déclare la visitation des fondements de ta famille, des fondements de ta vie, au nom de Jésus, qu'il y ait un tremblement de terre, qui vomit ce qui te revient, qui vomit ce qui revient à ta famille, qui vomit ce qui revient à tes entrailles, qui vomit ce qui revient à tes finances, au nom de Jésus.
Assois-toi, bien-aimé. C'est l'histoire d'un jeune homme très intelligent qui passe ses examens de fin d'année. Quelqu'un travaillait contre lui à partir d'un hôtel satanique, mais il ignorait. Et lorsqu'il prenait le stylo pour écrire, ses mains commençaient à trembler violemment et le stylo tombait par terre. Et cela s'est produit deux fois. Mais l'un des surveillants qui l'observait a pensé qu'il essayait de tricher à l'examen. Et le surveillant l'a alors averti s'il répétait la même chose, on devait le sanctionner. Alléluia. Et comme il était télécommandé, téléguidé depuis un hôtel, il n'y avait aucun contrôle sur ses actions. Et finalement, le stylo est tombé une troisième fois, bien-aimé. Et le surveillant, qui était furieux, s'est rapidement rendu auprès de ce jeune homme et a pris sa feuille de réponse et a mis sur un big rouge, moins 10. Et ce garçon a dû commencer son examen avec moins 10. Alléluia. Certains d'entre vous qui m'écoutez ce soir sont comme ces jeunes garçons. On dirait que vous avez commencé votre vie avec un moins. On dirait que vous avez commencé votre vie déjà désavantagé. On dirait que vous avez commencé votre vie avec la réduction de vos capacités. Alléluia. Alléluia. Il a commencé sa vie avait moins. Il avait commencé son examen avec moins 10. Parce que il ne comprenait pas que sa vie était téléguidée quelque part. Je décrète que le Seigneur te rend tout ce que tu as perdu depuis le ventre de ta mère au nom de Jésus. Je décrète que le Seigneur te rend tout ce que l'ennemi a volé. Depuis le sein de ta famille, depuis le sein de ta mère, te concernant au nom de Jésus. Bien-aimé, dans Actes chapitre 3, le verset 1 à 10, on y raconte l'histoire d'un homme qui était né à Bateux. Né boiteux. Oh, il est né déjà boiteux. Il est né castré. Il est né avec une jambe ou deux jambes en moins. Comment vas-tu évoluer? Alors que la vie va très vite. Comment vas-tu suivre le mouvement? Et il s'est retrouvé mendiant. En plus d'être né boiteux, il est mendiant. On a fait de lui un mendiant à la porte de la belle en Israël. Il n'avait pas été ordonné pour être mendiant, mais les circonstances l'ont forcé à faire de la mendicité son métier. Et nous en avons aujourd'hui. Il y a plein de personnes dans l'église et hors de l'église qui sont devenues ce qu'ils n'étaient pas censés être à cause de certaines situations et de certains désavantages de leur vie et de leur famille. Je viens te repositionner ce soir. Je viens repositionner ta destinée. Je repositionne ton futur. Je repositionne ton futur. Je ne consulte pas ton passé. Je déclare que ton futur est brillant plus que ton passé. 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 Au nom de Jésus. Voyez cet homme à la porte de la belle. Nous sommes tous comme lui. Plusieurs d'entre nous sont comme cet homme à la porte. À la porte du changement de leur destinée. Mais ils sont castrés. Ils sont eunuques depuis le sein de leur mère. Qu'est-ce qui t'a rendu eunuque? Qu'est-ce qui t'a désavantagé depuis le sein de ta mère? Alors que Jérémie dit que avant qu'il ne soit formé dans le sein de sa mère, lui, on l'avait établi prophète. Qui t'a établi mendiant? Ce matin, Dieu me donne, ce soir, Dieu me donne le mandat pour changer ta destinée. Il a dit, Dieu me donne le mandat pour changer ta destinée. Il a dit, Dieu me donne le mandat pour changer cette destinée. Par la puissance du sang de Jésus, par le nom glorieux qui a vaincu le tombeau, je viens briser ce jour sur ta vie. Je viens briser ce jour sur ta vie. Je viens briser ce jour sur ta famille. Je viens briser ce jour sur ta destinée. Je viens briser ce jour sur ta vie. Tu avances maintenant. Tu avances maintenant. Tu avances maintenant. Tu ne recules plus. Tu ne recules plus. Tu ne recules plus, tu ne recules plus. Sors de ce tombeau, sors de ce tombeau, sors de ce cachot, sors de cette confusion, sors de cette amertume, sors de cette douleur, sors de ces regrets. Au nom de Jésus.
Assois-toi, bien-aimé. Nous ne faisons que commencer. Est-ce qu'il peut avancer? Alléluia.
Destinée a été brisée. Dès le vent ventre de sa mère. Il a donc dû trouver un moyen de subsistance. Voici un homme qui était destiné grand. Il est devenu mendiant. Parce qu'on a commencé, on a vu qu'il est devenu, il devait être un problème depuis le sein de ta mère. Ses ennemis ont dit, si cet homme naît avec ses deux jambes, on est mort. On est mort. Si cet homme naît avec ses deux jambes, sa mère va sourire. Je dis ce soir, ta destinée, tu vas l'accomplir. Il va l'accomplir. Tu vas l'accomplir. Parce que tu n'es pas le processus d'un homme. Tu n'es pas le processus d'une femme. Tu es le processus de la divinité. Tu es le processus de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Voyez, je vous raconte une petite histoire. Vous allez aimer cette histoire. Un homme est né avec 100 jambes. Et son père et sa mère se sont battus pour qu'on regarde la situation. Ils sont allés dans tous les hôpitaux. On a dit c'est clinique, c'est génétique, c'est héréditaire. Alléluia. Ils ont compris que la science ne pouvait rien faire pour cet homme. Les parents sont allés de croisade en croisade. Partout où il y avait le miracle, ils allaient avec l'enfant pour que les jambes poussent, pour que les mains poussent. Jusqu'au jour où ils sont arrivés quelque part. Alors qu'un homme de Dieu, un prophète, devait prier pour l'enfant, il a dit, cet homme est un serviteur de l'Éternel. Puissant homme de Dieu, il a dit, sans jambes, sans mains. Il dit, cet homme ira dans le monde avec l'évangile, mais il n'a pas de pieds. Comment va-t-il amener l'évangile sans pieds? Quels sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix? Il n'a pas les pieds pour qu'elle soit belle. Problème. Je suis là pour dire à quelqu'un, même si on a enlevé, Dieu est capable de t'en donner une autre. Dieu est capable de t'en donner une autre. Dieu est capable d'utiliser cela pour confondre l'ennemi, pour confondre ta famille, pour confondre les ennemis de ta famille. Dieu est capable d'utiliser cet handicap pour glorifier son nom. Dieu est capable d'utiliser le mien pour annoncer l'évangile. Et cet homme, aujourd'hui, nous tous le connaissons. Il est marié et aucun de ses enfants n'a... Tous ses enfants ont les deux pieds et les deux mains. Et quand tu regardes, tu dis, j'ai trop de problèmes. Tu n'as pas de problème. Lui, il en avait. Lui, il en avait. J'ai vu le témoignage d'un pasteur. Hémiplégique. Ça veut dire paralysie des deux jambes inférieures et supérieures, bras et pieds. Il est sur fauteuil roulant. Et il rend ministère aux malades. Lui, il bave, mais il dit Jésus. Les malades se lèvent. Il dit Jesus. Il y a un énorme, un puissant homme de Dieu en ce moment en Côte d'Ivoire qui fait mal. Il est paralytique. Il n'a pas de pied. Il est sur fauteuil roulant. Mais il ordonne les prophètes. Il a un puissant ministère d'évangélisation. Et quand il se tient comme ça, il dit, mettez-vous là. L'onction ramasse tout un stade. Laissez-moi vous dire que votre handicap n'est pas un problème pour Jésus. Il peut le transformer. Il peut le transformer. Il peut le transformer pour sa gloire. Pour sa gloire. Pour sa gloire. Si tu es déterminé, si tu es affamé, si tu es assoiffé et si tu es fatigué de cette situation, lève-toi avec moi et dis trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je refuse de demeurer dans le cachot du désespoir, dans le cachot de la dépression. Sois-toi bien-aimé. Tu as deux pieds, tu as deux mains. Ça ne te sert à rien. Juste lamenter. Il m'a encore giflé aujourd'hui. Honte. Je crois que le jugement sera grave. Quand nous voyons de tels éléments que Dieu utilise aujourd'hui, quelle excuse aurons-nous? Quelle excuse
Un samedi, je vais projeter la vidéo de ce pasteur en Côte d'Ivoire. Un prophète, un évangéliste, un puissant ministre, puissant évangéliste, ministère rempli de signes et de puissance. Les paralytiques marchent, mais lui, il est sur fauteuil roulant. Dieu s'en fout. Il l'utilise. Alléluia. Il a tout un protocole. Les gens veulent le toucher. Les gens veulent le toucher. Et lui, il marche. Il dit, je ne peux pas arriver là-bas. Alors, joignez-vous juste la main. Alors que je tiens la main de celle-ci, vous tous, vous êtes guéris. Et c'est instantané. Toi, tu as deux pieds. Ton voisin n'arrive même pas à donner sa vie à Jésus. Tu as deux mains. Chaque jour, tu bagarres c'est quoi? La souris. Hein? Le cancre là. Faya. Alléluia. Mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus, le restaurateur des brèches, par l'intermédiaire des apôtres Pierre et Jean, le plan initial de Dieu pour sa vie a été rétabli. Alléluia. Les fondations d'un homme peuvent le promouvoir ou le rétrograder sans effort et sans bruit. Sans effort et sans bruit. Hier, j'étais dans un village pour prier pour une famille à l'ouest. Et une des soeurs, une des filles, des dames qui étaient avec nous, on était dans une chefferie, on était à l'intérieur de la chefferie, le chef nous recevait. Et il y avait une colline parce que la chefferie est comme dans un trou. Il faut descendre. Heureusement, on avait une 4x4. Et donc, la soeur qui était là dit que, vraiment, quand tu vois la colline ici, même si tu as quel genre de démon, tu montes la colline, le démon va te laisser. Elle dit que tu blagues. Pas les démons que moi je connais. Ça voyage même avec toi pour aller aux États-Unis. Alléluia. Il dit que quel démon va. Parce que tu montes. Qui t'a dit qu'il montait avec ses pieds? Il montait avec tes pieds. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit que non, la colline, si, pasteur, si quelqu'un qui a un démon, monte seulement ça trois fois, le démon dit, mon frère, il te laisse. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire à côté des démons. Et même, tu ris bien même. Parce qu'ils savent que ça passe. Ça n'a pas de sens. Et elle racontait ça en rien. Elle dit que non. Si ça part avec les gens jusqu'aux États-Unis, ça n'a pas de problème avec le froid, avec le chaud, avec, je ne sais pas moi, avec le désert. Non, il marche avec toi partout où tu vas. Tu bois, il boit. Tu ne bois pas, il ne boit pas. Tu manges, il mange. Alléluia. Et il est en first class, toi tu es en classe éco. Jesus. Alléluia. Et donc, c'est un fardeau auquel il faut s'attaquer tôt dans la vie. Si la personne concernée veut avancer rapidement dans la vie et accomplir sa destinée. Nous sommes rentrés dans cette grande chefferie-là hier. Et quand je suis entré, quand on est entré comme ça, oh mon Dieu. Je disais seulement aux frères et aux soeurs qui étaient là que vous venez faire les selfies ici. Waouh, c'est touristique. Waouh. Oh, chez nous. J'ai dit, mais vous êtes venus faire quoi même? Faire les photos ou bien prier? Vous venez pour toute une... Je les ai appelés, dit comme, est-ce que vous savez que tout le monde ne pouvait pas être là? Vous portez plein de personnes avec vous. Vous venez pour leur délivrance, les papas, les mamans, les fils, les petits-fils, les arrière-fils, les arrière-arrière-arrière, et vous faites les selfies. Il dit non, vraiment, on va se filmer à côté de l'hôtel-ci. Oh, l'hôtel sacré-ci, vraiment. J'ai dit, bien-aimé, quand tu n'es pas encore arrivé quelque part, tu ne comprends pas où tu pars. Est-ce que quelqu'un me suit? touristique. Il y a quoi de touristique quand tu arrives dans un lieu sacré? Il y a quoi de touristique? Je comprends que vous avez encore envie de manger les concombres de l'Égypte. Ça vous manque. Ça vous manque les concombres de Pharaon. Ça vous manque l'esclavage de Pharaon. Il dit, soyez vigilants. Le chef nous reçoit. Le chef nous laisse dans une salle d'attente. Il demande qu'on nous envoie à manger. On est venu manger. Les gens tombent dessus. Moi. On dit, après, tu ne manges pas. Il dit, je viens au lieu, c'est mange. On envoie les bières. Woup. Il dit donc, c'est une histoire de. Quelqu'un me dit à côté, ah, pote, vraiment, le genre de banane mélassée, si. Il n'y a pas ça dehors. Le goût que ça, c'est le vrai goût. J'ai dit, tu cherches le goût entre le goût de la banane mélassée et ta situation. C'est une nouvelle banane mélassée. Est-ce que le temps, c'est pour manger? Élisée a dit à Géasi, est-ce que c'est le temps de recevoir des offrandes? Est-ce que c'est le temps? Hein? Et je ne faisais que dire, vous êtes trop distrait. Qu'est-ce que je fais ici? Vous mettez même ma vie en danger. Vous mettez ma vie en danger. Et je ne faisais que prier. Je prie. Après, les gars disent qu'ils veulent se mettre à l'aise. On se met à l'aise d'un coin comme ça. Non, j'ai jamais vécu la situation là. On était les seules personnes que le roi devait recevoir. Mais le roi nous a laissé rester là au moins 2 heures de temps. Pourquoi? Il était là-bas dedans, seul. On venait seulement, nourriture, pouf, boisson, pouf. Quand on dit que non, le prophète dit boire que le jus est. Il dit non, je ne bois rien. Même le jus. Je vais acheter mon jus en ville quand on va sortir d'ici. Les gars ont mangé jusqu'à ils voulaient maintenant aller au popo. C'est ça quand tu vas en guerre avec les gens qui ne savent pas qu'ils sont en guerre. Ou aller en guerre avec les gens qui ont fait un traité de paix avec Satan. Quand vous allez en guerre, la Bible dit deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble si nécessaire accorder. Ça veut dire qu'il n'y avait aucun accord entre eux et même moi. Et quand on discute dans la voiture, le tonton qui était là, il dit, j'ai dit que non, mais là, on ne peut pas mélanger Dieu et la tradition. Il dit, ah, mais apôtre, tu sais que c'est dangereux. Ça veut dire que le mélange est dangereux. Il dit que oui, c'est dangereux. Il dit, mais et moi alors? Moi, je fais les prières avec vous. Et moi, je suis traditionnaliste. Et il dit que bon, tu choisis ton camp, hein. Alléluia. Et bien aimé. Beaucoup de gens vivent des expériences depuis leur fondation, mais ne comprennent pas la valeur de ce que nous sommes en train de dire ce soir. Ils croient que c'est l'histoire ancienne. Ils croient que c'est l'histoire ancienne. Après, on les montre une source. On dit que voilà la source des ancêtres. L'autre a dit, pardon, donne-moi ta bouteille là, je vais aller un peu puiser pour rentrer avec. Je ne sais pas où. Heureusement, le roi lui-même a dit que non, la route est devenue un peu inaccessible parce qu'on n'entretient pas. Alléluia. Parce qu'on n'entretient pas. mais on a voulu faire le tourisme dans un lieu compliqué. On fait le tourisme à la chefferie. C'est un lieu sacré. C'est un lieu sacré. Alléluia. C'est un lieu sacré. J'ai eu le privilège dans une des missions que Dieu m'a confiées d'entrer dans des forêts sacrées. Et après, le roi nous a montré la forêt sacrée. Il dit, voilà la forêt sacrée. C'est là-bas que tout se passe. Il dit, ah, OK. Quand on est entré, j'avais mon sel oint. Et avoir versé à l'entrée de la chaufferie. À l'entrée, j'ai lancé mes balles. Alléluia. Je vais engager mes armes dans mon sac. J'avais mon sac comme ça, j'ouvre comme ça, je prends l'huile, je verse. Je tourne, je prie pendant qu'on tape les divers. Je me prépare. En route, j'ouvre sur le trajet, verse le sel, je prie. Je prie. Ne m'invite pas dans ton village, tu fais ça. Je n'ai pas été laisse. Merci. Pardon? Je n'ai pas suivi. Tu écoutes ta tête, tu te réveilles. Je suis dans le coma. Alléluia. Dis avec moi feu. Dis avec moi feu. Bien aimé. Voyez, les fondations sont importantes. Et quand on est entré, j'ai dit à cette famille, il y a une puissance de pomme friquée en ce lieu. Quand on est entré, il nous a suivis. Attention. Alors, si un garçon naît d'une famille pauvre dans un village éloigné, il est pauvre dès sa naissance et risque de ne pas savoir ce qu'est le luxe pendant longtemps. Et si vous voyez là où le village là est, mes bien-aimés, même le chef ne reste pas dans la chefferie. Il parle un peu devant habiter. Parce que l'endroit est enclavé à l'intérieur. L'intérieur. Finalement, on est même resté seul qu'avec le roi. Hein, parce que même ceux qui étaient avec lui sont partis. La famille du chef est devant. Donc, il a fait une pré-chefferie devant. Un peu plus accessible à tout le monde. Mais celle-ci, c'est à 3 kilomètres à l'intérieur. Alléluia. À 3 kilomètres. Et donc, si un autre garçon naît d'une famille royale et riche, il naît riche et ne sait pas ce que ça signifie le manque et ne connaîtra jamais la souffrance. Alléluia. Vous avez sans doute connu des gens, des camarades, des amis, des collègues qui ne connaissent pas le manque. Alléluia. Ils ne font pas trop d'efforts dans la vie. Les choses fonctionnent normalement. C'est comme si c'est normal. Tu quittes la cible, tu vas au CP, 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 CM1, CM2. Toi, tu triples. CM1, CM2. Toi, tu crois triple. Alléluia. Pour lui, c'est normal. Sixième, cinquième, tu triples. Mais, et la personne, quand il a le bac, pop, la porte s'ouvre, il voyage, il revient, c'est frustrant. Mais allez interroger la fondation de ces personnes et interroger la vôtre, vous allez voir que c'est deux fondations différentes. Différentes. À cause de leur fondation, ils sont prédestinés à ne pas connaître un certain type de souffrance. Alors, quand tu viendras leur expliquer ta souffrance, ce sera comme de l'irréalité à côté d'eux. On dit non, la vie, ce n'est pas ça. Non, comment tu peux raconter un truc? Tu vas même bagarrer avec lui pour lui faire entendre que tu souffres. Il va te dire jamais. Il n'y a pas le genre de souffrance-ci. Parce que dans sa famille, les choses sont autrement. Il y a des gens qui sont dans leur famille, les Abraham, il y en a qui sont les Salomon. Alléluia. Salomon connaît la période d'or. Il n'a plus de guerre. Dieu a mis toutes les batailles, toutes les guerres sous les pieds de David. Lui vient régner un règne de paix. C'est pourquoi on dit Salomon, prince de paix. La paix. Lui ne connaît que la paix, la paix. Il se bat même pour la guerre, il n'y a pas la guerre. C'est son fils qui naît, qui écope la guerre. Et la division. Tu viens de quelle fondation? Certaines fondations te prédestinent à être eunuque d'un domaine de ta vie. Le caractère eunuque aussi, c'est qu'il y a certains domaines de ta vie, il y a certains domaines de la vie qui te seront interdits. Il y a certaines choses de la vie que tu ne pourras pas avoir accès. Tu n'as pas à avoir accès. C'est-à-dire, tu nais dans une famille où le plus riche, tous 100 000. Et le jour qu'il arrive même aux 100 000, c'est la fête générale. Excusez-moi. Hein? L'autre jour, on faisait l'enterrement du père d'une star de football dans notre pays. Mais de tous les enfants de cet homme, il y a combien qui ont réussi? Un seul. Un seul. S'il part, tout le monde s'élève. Mais à cause de qui on est venu là-bas? Le monde entier s'est déporté là-bas. À cause de combien de ses enfants? Un seul. Il est devenu chef de famille par circonstance. Alléluia. Parce que les autres, j'écoutais un jour son petit frère dire que non, lui, il souhaite qu'il meure avant lui. Parce que s'il meurt avant lui, son deuil sera bien. Mais s'il meurt après lui, vraiment, il ne sait pas comment son deuil sera. Les gens sont... Regardez la sagesse d'un homme. Regardez la sagesse d'un homme. Il sait que s'il meurt avant, on va faire le deuil comme on a fait pour son père. Les grandes personnalités vont venir. Mais si pas après lui, qui va venir à son deuil? Qui le connaît? Alléluia! Alléluia! Est-ce que je peux avancer? Eh bien aimé, nous parlons des choses très sérieuses. Et beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent ce phénomène de nuque dans leur destinée. Ils sont ennuis depuis le sang de leur maman. Regardez la bataille entre Jacob et Ésaü. C'était depuis le sang de la mère. Alléluia. Jacob est né ayant rendu son frère eunuque. Il ne savait même pas qu'il était eunuque. Jusqu'à ce qu'il perde le droit d'aînesse, qui le privait de certaines grâces, qui le privait de la bénédiction d'Abraham, que Abraham avait reçue, qui le privait et qui faisait de lui l'esclave de son petit frère. Oh Jésus, puisses-tu ne pas avoir cette position au nom de Jésus? Puisses-tu ne pas mépriser ton droit d'aînesse au nom de Jésus? Le droit d'aînesse d'un homme, c'est ça qui le rend supérieur. C'est quelque chose, ce n'est pas quelque chose de physique, c'est une bénédiction spirituelle. Allez voir des gens parce qu'ils sont aînés et qu'ils n'ont rien, ils appellent leur petit frère grand. Mon frère, tu es Ésaü, tu es Ésaü. Ne sois pas étonné que ton petit frère devienne Jacob et te traite. Tu appelles ton petit grand. Oui, grand. Ok, grand, je n'ai pas fait. D'accord, tu pars où? Tu pars où? Toi-même, regarde-toi. Regarde ton âge, tu pars où? Qui est grand frère? Dieu est fou de faire de toi l'aîné. Dieu est fou. Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas fou. Alléluia. Ne vends pas ton droit d'aînesse pour n'importe quoi. Ne vends pas ton droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Alléluia. Pour quelque chose de temporaire, tu vends quelque chose d'intemporel. Quelque chose de spirituel, tu vends ça pour quelque chose de physique. Alléluia. Alléluia. Voyez, bien-aimé. Signifie également que nous avons le devoir d'identifier notre passé et les fondements qui nous sont amenés à la vie.
Supposer que nos fondements sont solides et bien établis, sans faire des recherches et sans les confirmer, est très malheureux et constitue un désastre certain. Récemment, j'ai rencontré une famille qui m'a marqué. Vraiment, ça m'a marqué. J'ai dit, oh, si nos parents avaient cette sagesse. Eux, ils avaient un problème. Et j'ai vu ça aussi dans la famille de papa José. Son père, avant de mourir, avait retracé l'histoire de ses origines. Et il a écrit ça dans un livre qu'il a partagé à chacun de ses enfants. Moi-même, j'ai eu un exemplaire. J'ai ça encore aujourd'hui dans ma bibliothèque. Il a retracé son origine, d'où il vient, et les batailles auxquelles il a été soumis. Et j'ai vu ça dans une autre famille. Récemment, c'est le frère Yves qui est venu me voir. Il me dit, on était en train de vouloir chercher un successeur dans leur famille, je crois maternelle. Et il me dit, ils sont allés voir un des parents. Et le parent a dit, mais il y a le livre d'or de la famille. Il dit, quoi? Il y a le livre d'or. Ton père a écrit dedans, ton grand-père a écrit dedans, ton arrière-grand-père a écrit. Donc chacun venait écrire sa partie. Et quand on allait dans le livre d'or a stipulé d'où qui devait hériter. Aujourd'hui, il y a des disputes parce qu'on n'a pas laissé un document. Le papa de papa José, on l'a enterré selon ce qu'il avait écrit dedans. Selon ce qu'il avait écrit dedans. Il a écrit comment on doit l'enterrer. Il a tout écrit. Mes enfants, ne faites pas ça. Mes enfants, ne faites pas ça. Enterrez-moi à l'église. Les pasteurs doivent célébrer mon mariage, mon décès, mes obsèques. Telle chose doit se passer. Telle chose doit se passer. Et c'est ça qui permet à quelqu'un de pouvoir envisager son futur. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas où tu vas. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras même pas ce à quoi tu as droit. À quoi as-tu droit? C'est quoi chaque fois qu'on dit que, est-ce que tu sais que tu as droit au mariage? Tu dis, ah bon? Alléluia. Ah bon? On dit que non, tu as droit à être riche. Ah bon? Qui est d'abord riche dans notre famille? Comme Gédéon. Alléluia. Est-ce que j'aide quelqu'un? Quand la prophétie sort, toi, tu as le droit d'avoir le fruit des enfants. Ah bon? Ça sort d'où? Dieu a vraiment dit ça? Tu es sûr? Non, il n'a pas. Ah. Alors que c'est inscrit dans la lignée de votre famille. C'est juste que quelqu'un est venu avant vous, il a enlevé les pages de là. Maintenant, parce que vous ne retrouvez plus les pas là, vous croyez que vous n'avez pas droit. Je viens déclarer sur ta vie que la grâce de Dieu est pour toi. J'ai dit la grâce de Dieu est pour toi. J'ai dit la grâce de Dieu est pour toi. J'ai dit la grâce de Dieu est pour toi. La grâce de Dieu est pour toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Le chemin parcouru dans la vie dépend du type de fondation que nous possédons. Je répète, le chemin parcouru dans la vie dépend du type de fondation que nous possédons. La capacité à lire est la base de toute éducation ultérieure. Alléluia. C'est la base de toute éducation ultérieure. Si tu n'as pas eu les B.A.B.A. A, B, C, E, A, B, C, B, A, B, B, E, B, B, O, B. Tu ne vas pas connaître l'île. Est-ce que quelqu'un me suit? Parfois, on croit que la SIL, on appelle ça quoi? SIL, ça veut dire quoi? Section d'initiation à la lecture. Mais on cale sur ça, SIL. Tu as la SIL, tu as la SIL. C'est section d'initiation à la lecture. Tu es là pour apprendre à lire. Si tu rates là-bas, tu ne vas pas savoir lire. Est-ce que j'aide quelqu'un? Oui! Alors, ta capacité à lire aujourd'hui un livre normal, à lire ta Bible, est liée à l'éducation que tu as reçue ultérieurement dans ta vie. Il est donc impossible pour un analphabète d'obtenir un diplôme d'une université qu'il n'a pas fréquenté. Alléluia. Non. Comment une personne qui n'a pas de CPE, par exemple, CEP, on appelle ça aujourd'hui CEP, pas plus CPE, c'est certificat de, pardon? D'études primaires, voilà. Non, il n'y a plus élémentaire. On a enlevé. Alléluia. Primaire. Alors, comment quelqu'un, comment une personne qui n'a pas de CEP, de certificat d'études primaires, pourrait-elle obtenir un diplôme de l'université à laquelle elle n'est pas qualifiée pour entrer en premier lieu? Alléluia. Si demain ma fille, Raphaël, vient te dire, papa, j'ai le doctorat à l'université de Harvard, tu ne vas pas t'écrouler. Rosine est morte là-bas. Mais tu vas t'écrouler. Parce que quel est le lien? Comment elle fait? Comment elle a fait même pour faire les cours? Elle a compris. Elle comprenait quoi? Oh, ici, elle est encore en CIL, sixième. Alléluia. Elle ne peut pas comprendre les matières universitaires. Elle ne peut même pas comprendre les matières. Même si elle est très intelligente, elle ne peut pas comprendre la philosophie de la terminale. Elle ne peut pas comprendre la mathématique, la physique, la chimie. Alléluia. C'est pourquoi elle va graduellement. Elle va graduellement. Maintenant, quand pendant l'enseignement, les enseignants découvrent qu'elle a la capacité de traverser une salle et qu'elle a le potentiel, vous allez voir, on te met d'abord dans la salle là, tu fais le premier trimestre dans la salle, on voit comment tu te comportes. C'est quand tu as les bonnes notes, on dit, ah, elle peut avancer. Tu n'entres pas une fois, tu engages. Il y aura un problème dans ton éducation. Au lieu de te mettre en haut, ça va te ramener en arrière. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, votre fondation parle de qui vous a donné naissance, des circonstances entourant votre conception et votre naissance, de la relation que votre père et votre mère ont avec le Seigneur et de la partie de la vie dans laquelle ils ont marché. Le chemin du bien, la marche dans la justice, dans la sainteté, selon leur propre sagesse ou selon la sagesse de Satan. Alléluia. Tout ça va influencer ta vie. Alléluia. Quelle que soit la position qu'ils ont prise, elle affectera ta vie de manière positive ou négative. C'est pourquoi David va d'ailleurs dire, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Le juste. David interroge les fondations du juste, pas du païen. David ici dit, le problème, le païen déjà est déjà mort. Alléluia. Maintenant, interrogeons pour le juste. Toi qui es enfant de Dieu, si tu as donné ta vie à Jésus, tu t'es engagé dans le chemin, tu aimes le Seigneur, mais cependant, tu viens d'un endroit où les gens adoraient le python, ça aura de l'influence sur ta vie. Alléluia. Alors, tu vas confesser, Jésus est Seigneur, je suis en haut et non en bas. Tu vas constater que tu seras toujours en bas. La tête et non la queue. Tu vas constater que tu es la queue. Pourquoi? La fondation. Quelqu'un dit ça avec moi, la fondation. C'est pourquoi en architecture, mes bien-aimés, les fondations sont la partie la plus importante d'un bâtiment. Également la partie la plus invisible. Regardez. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Est-ce que vous voyez la fondation? On a déjà recouverte. On l'a recouverte. On l'a totalement recouverte. Si on ne te dit pas qu'on a mis 25 semelles ici en bas, tu ne vas pas croire. Pour porter le bâtiment, tu ne vas jamais croire. Cependant, ceux qui étaient là au commencement du bâtiment savent qu'on a mis. Alors, ceux qui étaient là au fondement de votre famille savent ce qui a été traité là-bas. Et toi, tu arrives, ils sont tous morts. Qui va te dire le nombre de pylônes qu'on avait mis en bas et les traités qu'on avait faits en faveur de votre famille ou contre votre famille? Si Dieu ne t'aide pas, je prie pour toi. Que le Seigneur te révèle là où ta famille a été rendue eunuque. Que le Seigneur te révèle là où tu as été rendu eunuque. Au nom de Jésus! Alléluia! Au nom de Jésus! La hauteur d'un bâtiment est déterminée par les fondations. Vous voyez? Quand nous avons bâti ça, lorsque nous étions au milieu des élévations, quelqu'un est venu me souffler à l'oreille. Est-ce que ce serait pas bien de faire même un troisième niveau, une troisième dalle là-bas, une autre dalle en haut là, pour faire un troisième niveau? Et j'ai dit, oui, pourquoi pas? Voyant qu'on avait mis 25 semaines, il disait, mais ça va tout porter. Alléluia. L'ingénieur des travaux arrivait et je l'ai présenté le souci. Il dit, non. Pasteur, si tu voulais trois niveaux, hein, tu allais dire au début, on calculait en fonction de trois niveaux. Là, on a calculé en fonction de deux niveaux. Si tu ajoutes, c'était risqué et péri. Alléluia. Alléluia. Nous comprenons que le niveau de ta hauteur est déterminé par ta profondeur. Alors, le chemin parcouru dans la vie dépend du type de fondation que nous avons. La capacité à lire est la base d'une éducation plus poussée. Regardez, les gens qui aiment la lecture vont vite aller loin. Les gens qui détestent la lecture vont rentrer en arrière, régresser dans la vie. Parce que la lecture, vous savez, une des caractéristiques et une des spécificités de la lecture, c'est de développer ton esprit et ton intelligence à s'auto-élever. Alléluia. Plus tu lis, plus tu ajoutes du vocabulaire dans ton intelligence. Mais moins tu lis, plus tu vas là où tu es supposé mettre là, tu vas mettre le. Sans t'en rendre compte. Alléluia. 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 Chaque jour, on va te dire, on ne dit pas le, on dit là. Tu dis, pardon, qui de là? Tu vas commencer la guerre. Alors qu'on disait lis, tu ne voulais pas. Maintenant, tu crois que ton problème, c'est le problème de tout le monde. On n'est pas tous allés à l'école. C'est mon problème. Est-ce que tu as besoin d'aller à l'école pour lire? Hello? Quelque chose m'est arrivé l'autre jour et j'ai été touché et heureux. J'ai reçu Maman Élise et ma fille Raphaël dans mon bureau. Vous savez, tout le monde est dans mon bureau et voit ce paquet de livres qui est scellé dans ma bibliothèque là-bas. Personne n'a jamais demandé, est-ce que je peux avoir un livre? J'ai fini de prier avec Raphaël, s'est levé et dit, papa, est-ce que je peux avoir un livre là pour aller lire à la maison? Sa grand-mère était gênée. J'ai dit, mais bien sûr, je suis allé déceler le livre. J'ai retiré. Si vous entrez dans mon bureau, le paquet de 66 livres là est décelé à cause de Raphaël. Elle est en train de lire. Et elle m'a dit, je lui ai donné un cahier d'agenda. Elle est rentrée, elle est en train d'écrire dedans. Alléluia. Demain, elle va croître en intelligence. L'autre va la jalouser. Elle va dire, ah, voilà. Hein, les sorciers. Tu vois l'intelligence des gens. Comment on vaut l'intelligence des gens? Dans ta classe, elle est la meilleure de l'école du dimanche. Alléluia. Et c'est très, très important. Comme les Congolais disent, quand tu vois un enfant qui va réussir, tu sais. Quand tu vois quelqu'un qui est prêt à développer son intelligence et aller très loin, elle s'intéresse à des choses auxquelles toi aussi tu t'intéresses. Moi, j'aime la lecture. Je lis. Pas encore beaucoup, mais je lis. Ces derniers temps, je suis un peu paresseux à cause de vous. Vous me prenez un peu beaucoup la tête. Alléluia.
Ça fait que j'ai au moins 15 livres ou 20 livres en retard là sur mon bureau. Donc c'est comme ça, c'est un tas là, ça m'attend. Alléluia. Je dois lire. Mais quand vous voyez ça, ce sont des prédispositions qui ne trompent pas. Alléluia. Je veux te donner un livre, je veux que tu lis ça en un mois. Aïe, papa, maman, j'aime même pas d'abord la lecture. Hein. J'aime même pas d'abord la lecture. Mais c'est normal que certaines choses t'échappent. Alléluia. Tu dois seulement voir qui n'ont souhaité informer. Alléluia. Qu'est-ce qu'on a encore dit? On a que qui? Ça s'est encore passé de quel côté? Qui a bagarré avec qui? Qui est mort? Voilà. Alléluia. Alléluia. Je vous donne une petite information que j'ai eue l'autre jour qui m'a choqué. Est-ce que vous savez qu'en mai, le mois de mai ici, dans lequel on va entrer, le monde va changer radicalement? Et personne ne sait. Chacun est focalisé sur sa petite vie. En mai, l'OMS va obliger tous les gouvernants à signer un mémorandum qui va leur donner le droit d'imposer à tous les États une vaccination. Et aucun pays n'aura plus le droit de refuser. En mai. Alors, si tu n'es pas informé, comment tu vas prier? En mai. Et c'est chaud. On est en train de bousculer les nations. On est en train. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'aller dans le gouvernement mondial. Tout doit être mondial. Parce que l'antéchrist arrive. Ce n'est pas une histoire imaginaire. Et quand et dans le document qui circule, on a monté un article où on va obliger toutes les nations à avoir le passeport de vaccination. Après le vaccin, le passeport de vaccination, c'est que les gens disaient, non, ça ne peut jamais se passer. On va mettre les puces dans les bras des gens bientôt. Ça a déjà été fait en Autriche. C'est fait un peu partout dans les pays baltiques. Là, c'est déjà fait. Les enfants naissent, ils naissent avec déjà la puce. On dit non, c'est pour que si on les kidnappe, on peut les identifier à partir de leur puce. Est-ce que je peux avancer? La tête ne chauffe pas. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas que c'est stratégique. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est d'enlever le droit à chaque parent de décider de l'éducation qu'il veut donner à ses enfants. On est en train de vous l'enlever, de nous l'enlever. Tous, l'enfant qui va naître, même dans ton ventre, ne t'appartiendra plus. Vous me regardez. C'est ce qu'on lit. C'est écrit. Écoutez, est-ce que vous savez que ce que Hitler, qui connaît Hitler, c'était le président, il était président, hein? Il a gagné les élections, hein, démocratiquement. Démocratiquement. Il est allé aux élections, il a gagné. Et tout le monde savait ce qu'il devait faire. Il a écrit ça dans son livre. Il a écrit tout. Donc, tout ce qu'il a fait, il avait écrit. Tout le monde l'a lu. Pour vous dire qu'une des manières de vous cacher la vérité, c'est de les mettre dans des livres. On sait que vous n'allez pas lire. Vous aimez les stories. Vous aimez. TikTok, TikTok, TikTok. Ta main, ça manque TikTok, 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 TikTok. Ta main, ça manque TikTok, TikTok, TikTok. On t'abrutit avec toutes les choses. Et aujourd'hui, tu es étonné que certaines choses tu ne peux pas faire. Parce qu'on est en train de te rendre éunuque ici. Ici. Tout ce que tu sais faire, c'est danser. Chaque mois, tu as une nouvelle choré. Tu ne connais pas la nouvelle danse. On danse maintenant comme ça. On danse maintenant comme ça. Ça a changé la vie de qui? qui est devenu riche en dansant. Bill Gates a dansé. Allez-le voir au mariage de Dangote, de la fille de Dangote. Il faisait comme ça. On dit la danse des milliardaires. Toi, tu Dombolo, zéro compte. Zéro dans le compte. Tout ce que tu gagnes, c'est la transpiration. C'était chaud, hein? Il fallait être là. Dis, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi.